Plateforme. Les arts et lettres.
La vérité à structure de fiction, avec Edmundo Gomez Mango.
Alors, le titre de mon exposé, c'est « De la vérité poétique ». C'est Goethe qui a rapproché de manière célèbre et durable ces deux mots, poésie, vérité, quand il les a choisis comme titre d'une de ses œuvres majeures, Dichtung und Wahrheit, pardon par mon très mauvais allemand. Les traducteurs se sont partagés entre deux options pour les rendre en français. Fiction et vérité, poésie et vérité. Le mot, surtout les grands mots, peut-être aussi les mots les plus bas et bruts, nous emportent. Nous les utilisons à tâtons, sans pouvoir discerner ce qu'ils disent. Nous voudrions nous servir d'eux, mais ce sont les mots qui semblent parfois se servir de nous. Fiction, poésie, vérité, qui serait à mesure de les définir? Les étymologies et ces voyages que les vocables font à travers le temps, l'histoire, les époques, ces migrations qui les portent d'une langue à l'autre, sont des indices d'une origine, du moment initial et mythique de leur invention. Fingere, modeler l'argile, poyen, produire ou faire avec les mots, veritas, adéquation à la réalité, selon la source latine, dévoilement ou révélation, selon la racine grecque aletheia. Les traducteurs se heurtent avec ce mot Dichtung, fiction ou poésie. Certains passeurs d'une langue à l'autre ont choisi fiction, insistant sur une des franges du spectre sémantique du mot allemand, celui qui se rapproche de la fantaisie, de la fabulation, du fictif, presque du faux, de la dissimulation ou de la tromperie. Ceux qui ont préféré le terme poésie accentuent le versant productif, expressif, ce qui, de la parole poétique, tend vers la transmission de l'expérience vécue ou vivance du monde intérieur. Dichtung est très proche du terme condensation, opération langagière essentielle de la métaphore. Pour Borges, le poète est el hacedor, celui qui fait avec le langage. Je rappelle que pour les hispanoparlants, le mot fiction reste lié à ce petit recueil de contes et des nouvelles de Borges qui surgit comme un météore dans le firmament des lettres de l'Amérique du Sud en 1944 et qui s'appelait Ficciones ou Fiction. C'est certain, le terme Dichtung n'a pas d'équivalent dans les autres langues européennes. Il semble inclure dans le rayonnement puissant de son champ sémantique des significations différentes, parfois contradictoires, désignant une activité du langage capable de forger les plus hautes créations poétiques, mais aussi les plus dérisoires, indifférentes aux valeurs esthétiques. Freud utilise le mot « Dichter » dans un article célèbre qui a posé au traducteur les mêmes problèmes que je viens d'évoquer. Le créateur littéraire et la fantaisie est peut-être la meilleure traduction de cet essai freudien parce que le mot allemand « Dichter » désigne non seulement le poète, mais aussi le romancier ou l'auteur des feuilletons. Goethe lui-même a été sensible à la polysémie de ce vocable. Il commence à écrire sur sa vie quand il a presque 60 ans. Le titre complet de l'ouvrage est « De ma vie, poésie et vérité ». Il n'utilise pas les termes « souvenir » ou « mémoire », mais ce laconique « de ma vie », comme si « de ma vie » était la substance même de l'écriture et non pas un objet extérieur à elle-même. Cette décision d'aborder le genre autobiographique coïncide presque avec la mort de sa mère, comme si son deuil lui avait suggéré de faire renaître par l'écriture quelques fragments de sa propre vie. La critique a signalé l'absence de la figure de la mère dans cet ouvrage, absence remarquable, d'autant plus qu'elle était une excellente conteuse d'histoire. mais Goethe a demandé à Bettina Brentano de lui envoyer les notes que la célèbre femme romantique allemande avait recueillies sur des anecdotes de l'enfance du poète. Goethe a commenté le titre qu'il donna à ses écrits autobiographiques. « Vérité et poésie », signale-t-il, « ce titre a été suggéré par l'expérience que le public nourrit toujours un certain doute sur la véracité de ses essais biographiques. Pour y parer, je me suis confessé d'une sorte de fiction, pour ainsi dire sans nécessité, et poussé par un certain esprit de contradiction, car ce fut mon effort le plus sérieux que de représenter et d'exprimer autant que possible la vérité profonde qui, pour autant que j'en fusse conscient, a présidé ma vie. Et encore, c'est là, dans ce livre, tout ce qui résulte de ma vie et à chacun des faits ici narrés ne sert qu'appuyer une observation générale, une vérité plus haute. L'oscillation de l'ordre des termes n'est pas le produit d'une erreur. Goethe avait choisi « Vérité et poésie » comme titre de deux premières parties de l'œuvre et plus tardivement, semble-t-il par des raisons d'euphonie, il a préféré « Poésie et vérité ». Je voudrais évoquer devant vous un moment important, presque inaugural, de l'écriture de Freud. Moment où il se confronte à son désir de transmettre les premiers résultats concernant ses recherches autour de la vérité psychique des névroses. Il s'agit d'un passage des études sur l'hystérie publié avec Joseph Breuer en 1895. Nous sommes donc au tout début de ce qui deviendra l'œuvre proprement psychanalytique de Freud. Après avoir appelé son passé de neurologue, lorsqu'il utilisait encore l'électrothérapie pour soigner et diagnostiquer l'hystérie, il signale « C'est pourquoi je m'étonne moi-même de constater que mes histoires cliniques se lisent comme des romans et qu'elles ne portent, pour ainsi dire, pas ce cachet de sérieux propre aux écrits des savants. » Il attribue cette rare qualité de sa nouvelle production scientifique à la nature même de l'objet traité, c'est-à-dire la maladie de l'âme, mais aussi au fait que sa méthode psychothérapeutique lui permet de faire un exposé détaillé des processus psychiques comme celui que l'on a coutume de trouver chez les romanciers, c'est une phrase de Freud, et d'accéder au déroulement de l'hystérie en utilisant seulement quelques notions psychologiques. Ce passage est remarquable à plusieurs points de vue. D'abord, on saisit la transition entre une clinique psychiatrique et une conception psychopathologique de la souffrance psychique. Dans cette terra incognita que Freud commence à explorer, les anciennes techniques de description et de diagnostic n'ont plus lieu. Nous assistons au commencement d'une nouvelle méthode qui essaie de percevoir plus clairement la souffrance psychique pour mieux la décrire et la comprendre. Elle consiste tout d'abord à entendre la parole des malades et à tenter ensuite de rendre intelligible le symptôme à partir des conflits psychiques et de l'histoire de la vie du sujet. Freud attribue le changement de son écriture à la nature de la chose étudiée. Si elle s'approche du roman, quand il décrit les troubles hystériques, c'est parce que ceux-ci sont, d'une certaine façon, romanesques. Roland Barthes parlera, beaucoup plus tard, du romanesque de la vie psychique. Le romanesque ne se confond pas avec le roman. Ce dernier est une production littéraire, plus ou moins achevée, tandis que le romanesque hante la vie psychique de chacun d'entre nous. Il est une qualité du psychisme liée à l'imagination et à la capacité de fantasmer. Barthes l'a caractérisé ainsi. Une erratique de la vie quotidienne, de ses passions et de ses scènes. Fin de citation. C'est l'imagination active de l'analyste ou du romancier qui les rend capables d'appréhender cette errance de la vie de l'âme. Il s'agit d'un signe de reconnaissance que Freud, l'homme de science, ancien chercheur, neurologue en train de devenir psychothérapeute, adresse au romancier, à l'homme de lettres. Freud semble suivre ainsi un modèle traditionnel de la vérité comme adéquation du discours à la réalité. Le romancier est un fin observateur des faits psychiques. Il peut les décrire et les reproduire dans son laboratoire langagier avec beaucoup plus de vérité que le neurologue ou le psychiatre, pris au piège des nouveautés technologiques de l'époque, l'électrothérapie et autres. Dans le même mouvement, Freud se sert implicitement d'un modèle de la vérité plus ancien, qui correspond à sa racine ou source grecque, à l'étéia ou dévoilement, désoccultation ou révélation. Entendre la parole de celui qui souffre, entendre le sujet qui parle et qui construit ses symptômes sans savoir comment et sans le vouloir, permet de révéler une vérité nouvelle de l'être humain, le dévoilement d'un ensemble des forces non conscientes, non maîtrisables par le moi, qui agissent à son insu, qui déterminent son apparaître ou sa présence dans le monde, sa relation à l'autre, mais aussi sa propre relation à la langue. Je me reste encore remarquer ceci. Cette transformation étonnante de l'écriture de Freud, qui se rapproche jusqu'à par moments se confondre avec l'écriture romanesque, introduit une autre singularité propre à la nouvelle science, la psychanalyse. Son discours, sa parole et son écriture ne peuvent plus prétendre à la neutralité de la science par rapport au langage. Pour le scientifique, la forme du message est secondaire. Ce qu'il met en avant, ce sont les contenus conceptuels et non pas la langue qui les transmet. Le nouveau scientifique, Freud, doit être nécessairement sensible au langage, non seulement quand il entend la parole du patient, mais aussi quand il écrit pour faire connaître sa découverte. Il se produit ainsi un bouleversement considérable dans la relation de la nouvelle science, la psychanalyse, avec les autres sciences et le langage, qui persiste jusqu'à nos jours. L'étonnement initial freudien par rapport au changement de son écriture contient encore, me semble-t-il, une troisième référence à la notion de la vérité psychique du patient qui parle, du médecin de l'âme qui écrit l'histoire de ses souffrances et les transmet, ne peut être saisie que par un acte de langage. La vérité psychique est ainsi intimement concernée par la relation au mot. Mais si la parole peut essayer de dire la vérité, elle peut aussi mentir. Une autre découverte freudienne de la même époque apporte une complication majeure. La mémoire humaine est paradoxale. Elle oublie les faits les plus significatifs de l'histoire du sujet, l'amnésie infantile. Elle retient souvent, de façon particulièrement nette, parfois presque hallucinatoire, des souvenirs insignifiants. L'analyse de ces derniers, que Freud appelle « souvenirs écrans » ou « découvertures », permet d'accéder à des expériences infantiles marquantes ou à des fantasmes inconscients souvent déterminants pour la vie psychique du sujet. Freud soutiendra plus tard que les souvenirs écrans contiennent non seulement quelques éléments essentiels de la vie infantile, mais véritablement tout l'essentiel. Ils représentent les années oubliées de l'enfance aussi justement que le contenu manifeste de rêve en représente les pensées. Ce qui apparaît dans la conscience comme des vestiges ou des reconstructions des événements vécus sont des formations de compromis entre la force des désirs inconscients qui poussent, qui souhaitent ardemment revenir à la vie, comme les ombres que rencontre Ulysse lors de sa Nekuia, son voyage au pays des morts, et la censure intérieure qui réprime et qui déforme, qui peut même faire disparaître des pas entiers des traces du passé, des pans entiers des traces du passé. Le souvenir, comme le rêve, comme toute figure consciente, est déformé, défiguré. Dans ce sens, il est fiction, construction fantasmatique, expression à la fois du désir et de l'obstacle qui s'oppose à sa pleine remémoration. Chez Freud, la notion de vérité psychique est ainsi en intime relation avec l'inconscient. Le sujet humain a une forte tendance à la refouler, à la méconnaître, à la dénier. Elle est porteuse de quelque chose d'inconciliable, d'intraitable. Elle frôle l'irréprésentable. Le moi conscient se détourne d'elle. Il succombe à la névrose ou parfois à la psychose pour ne pas la reconnaître. Et pourtant, l'acte analytique, l'œuvre de Freud, est porté d'un bout à l'autre par ce que lui-même désignait comme l'amour de la vérité. Dans un de ses grands derniers textes, L'analyse avec fin et l'analyse sans fin, il affirme la relation psychanalytique est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance de la réalité. Freud utilise souvent l'expression « noyau de vérité ». Il le soupçonne là où il se cache le plus soigneusement, dans le symptôme, dans le délire, dans la défiguration onirique et son récit. Sa démarche consiste à s'approcher le plus possible de cette vérité occulte, invisible et inaudible, voire inouïe. Il sait en même temps qu'il ne pourra pas la saisir totalement, qu'il ne peut que deviner des fragments, des séquences partielles des fantasmes inconscients. La réalité psychique inconsciente est animée par le conflit incessant du dualisme pulsionnel, par le polémos inépuisable entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. La conception freudienne de la vérité intime est tragique parce que de cette lutte sans merci entre Eros et la pulsion de mort, personne ne peut prédire qui sera le vainqueur. Il se rapproche ainsi des conceptions de Nietzsche. Les Grecs ont été les seuls à pouvoir contempler l'horreur avec les yeux ouverts. C'était cela le tragique. Il s'exposait ainsi au destin d'Œdipe, l'aveuglement et la castration. L'art nous est donné, je répète la citation qui a été évoquée, l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité, écrivait Nietzsche. Cette phrase connue est précédée par celle-ci. Pour un philosophe, il est honteux de dire que le bien et le beau sont identiques. Et s'il ajoute le vrai, il est bon à battre. La vérité est laide. Je crois que l'amour de la vérité peut être partagé par Freud et le Dichter, le poète au sens large, celui qui travaille avec les mots, pour se rapprocher de sa vérité ou qui essaye de construire quelque chose de vrai avec sa parole. Freud est resté fidèle à ce sentiment profond de filia, d'amitié avec le poète qui marque déjà le passage des études sur l'hystérie que je viens de lire. La comparaison de son écriture avec celle du romancier reviendra à de multiples reprises. C'est encore la notion de roman qui fait retour sous la plume de Freud pour caractériser deux essais majeurs de son œuvre. Dans un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, « La seule belle chose que j'ai écrite », dit-il, il admet la possibilité que même ceux qui aiment et connaissent la psychanalyse puissent émettre l'opinion que je n'ai écrit qu'un roman psychanalytique. Il tente une sorte d'explication du penchant romanesque de son ouvrage. J'ai succombé comme d'autres à l'attraction qui émane de ce grand homme énigmatique dans l'être duquel on croit détecter de puissantes passions d'ordre pulsionnel. Freud ne rejette pas comme un obstacle pour la recherche intellectuelle l'intense émotion que l'objet d'étude soulève en lui. Il la transforme, au contraire, en un moteur puissant de l'enquête elle-même. Le statut du sujet qui écrit, qui se reconnaît comme source de ce qu'il produit, se rapproche ainsi du créateur des fictions et s'éloigne du sujet impersonnel et objectif de l'auteur scientifique. Une des énigmes à élucider par la recherche analytique est justement la puissance de séduction du personnage et de son œuvre. Il faut s'abandonner à celle-ci pour que la pensée puisse l'explorer et rendre compte de la nature profonde et vraie de son caractère captivant. Pour pénétrer le mystère de la forme artistique du Moïse de Michel-Ange, Freud procède de façon analogue. Ce qui nous empoigne aussi puissamment, dit-il, devant l'œuvre, ne peut pas être appréhendé de manière seulement intellectuelle. L'état affectif, la constellation psychique qui ont fourni chez l'artiste la force motrice de la création doivent être reproduits chez nous, écrit-il, pour que l'interprète puisse trouver les mots pour nommer l'intention de l'artiste. Dans le roman psychanalytique, la quête du psychanalyste est indissociable de l'imagination et de la sensibilité créatrice de Freud écrivain. Le deuxième grand essai que Freud rapproche du roman est l'un de ses derniers travaux, « L'homme Moïse et la religion monothéiste ». Dans une lettre à Arnold Zweig, il le caractérise comme un roman historique. L'enquête de l'analyste côtoie le travail de l'historien. L'analyste construit, ce qui n'est pas synonyme d'inventer, des hypothèses à partir des indices du passé, travaillés, interprétés par la pensée psychanalytique. C'est surtout la première partie, Moïse, un Égyptien, que Freud considérait intéressante comme un roman. Mais tout l'essai chemine sur la frontière qui sépare la légende et l'histoire, la construction psychanalytique qui interprète des indices théoriques et les hypothèses rationnelles qui bordent ce qui reste énigmatique et indécidable. La pensée et l'imagination freudienne ne reculent pas devant le grand effort nécessaire pour atteindre une compréhension rationnelle des temps légendaires, du temps des fondations. Il traverse, une fois de plus, l'étanchéité établie par les sciences humaines de son temps entre l'individu et le social. Le retour du refoulé qu'il a exploré dans la constitution du symptôme névrotique devient une analogie éclairante pour comprendre la fonction de la tradition. C'est en elle que s'opère le retour du refoulé social et l'idée d'un grand Dieu unique peut être interprétée comme un souvenir déformé d'une vérité historique. L'enquête de Freud ne cesse de chercher une vérité, de la construire avec de petits fragments, une vérité qui est à la fois psychique et historique. Ici, laissons la parole au poète, dit Freud à de multiples occasions. La parole du poète est la légitimation la plus authentique de la pensée analytique. Elle est la vérification privilégiée que Freud semble rechercher dans les moments à la fois haut et profond de son œuvre, car c'est elle, la parole poétique, la plus sûre à pouvoir témoigner au chercheur qu'il est tout proche d'une vérité humaine. Dans l'homme Moïse, il évoque la puissance de ces traces muettes que seul un traitement analytique peut faire entendre et qui sont à l'origine des impulsions inapprivoisables, capables d'orienter silencieusement, mais avec la force d'une contrainte, les actes d'une vie, de décider des haines et des choix amoureux. Il donne alors la parole, encore une fois, à Goethe, qui, pour expliquer la force de son attachement amoureux à une femme, Charlotte von Stein, imagine ceci. « Tu fus, en des temps anciens, ma sœur ou mon épouse. » L'amour intensément présent cohabite avec l'amour des temps lointains. Il en est la reviviscence ou la récidive. Nos sentiments, nos expériences vécues ou vivances, même et surtout celles qui nous ont marqués dans les époques les plus reculées du passé, sont encore là, en nous, présentes, vivantes. Et dans ce même essai, il évoque Hoffmann, qui avait coutume, rappelle Freud, de ramener les nombreuses figures qui se mettaient à sa disposition pour ses créations littéraires aux images et aux impressions recueillies au cours de voyages de plusieurs semaines en chaise de poste, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson à la mamelle. Ce que les enfants de 2 ans ont vécu sans le comprendre, ils n'ont jamais à s'en souvenir en dehors des rêves. Freud rejoint le poète pour laisser entendre que le noyau de la vérité psychique qui est à la source du romanesque, de la vie erratique, de l'âme et des fictions de la littérature, se situe au-delà du langage. Il est constitué par une mémoire de l'infantile construite par le tissage d'éléments sensoriels, perceptifs, très anciens, par des traces mnésiques devenues inconscientes. Freud se rapproche ainsi de l'infanz, de l'enfant qui ne parle pas encore, même s'il est déjà entouré par un environnement langagier et même s'il fait parler beaucoup de lui aux autres. Dans Freud, présenté par lui-même, il écrit « Il se vérifia ce que les poètes et les connaisseurs de l'être humain avaient toujours affirmé, à savoir que les impressions de cette période précoce de la vie, bien qu'elles succombent la plupart du temps à l'amnésie, laissent dans l'évolution de l'individu des traces indélébiles, en particulier qu'elles fixent les dispositions à des affections névrotiques ultérieures. » Freud finissait l'interprétation des rêves quand Joseph Conrad commençait la publication des « Au cœur des ténèbres » 1899. Je me fais l'effet d'essayer de vous raconter un rêve. Voyez-vous l'histoire ? Voyez-vous quelque chose ? Demande Marlow à ceux qui l'écoutent. Je me fais l'effet d'essayer de vous raconter un rêve. Vaine entreprise, car aucun récit de rêve ne peut communiquer la sensation du rêve. Non, c'est impossible de transmettre la sensation de la vie, sa subtile et pénétrante essence. C'est impossible. Nous vivons comme nous rêvons, seuls. Et plus loin, allons-nous soumettre cette chose muette ou être soumis par elle ? Le romancier et le psychanalyste assument chacun à sa façon la tâche impossible. Raconter et écouter des histoires pour faire parler la chose muette. Explorer, s'approcher de cette zone silencieuse au-delà du langage semble être une tâche commune à l'activité langagière de l'écrivain et du psychanalyste. La métaphore célèbre du livre intérieur de Proust s'oriente dans le même sens. Quant au livre intérieur de signes inconnus, de signes en relief, semble-t-il que mon attention, explorant mon inconscient, allait chercher, heurter, contourner, comme un plongeur qui sonde, pour la lecture desquels personne ne pouvait m'aider d'aucune règle. Cette lecture consistait en un acte de création où nul ne peut nous suppléer ni même collaborer avec nous. Aussi, combien se détourne d'écrire ? Que de tâches n'assume-t-on pour éviter celle-là ? Le livre intérieur, dont le déchiffrement devient le travail essentiel de son écriture, est composé par des signes inconnus en relief. Il ne s'agit pas d'un langage, d'un alphabet déjà connu qu'il suffirait de lire ou de traduire de manière consciente. Il s'agit de traces, de restes, de signes, vus ou entendus, que les vivances infantiles ont inscrits, gravés ou tracés dans la mémoire. L'écrivain plongeur devient une langue qu'il ne peut pas choisir, qui s'impose d'elle-même. Il s'agit peut-être de cette langue étrangère de la littérature, celle qui est écrite, selon Proust, les beaux livres. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens, ou du moins son image, qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. C'est J.B. Pontalis qui a enrichi la signification psychanalytique de l'infance. On le retrouve sous sa plume à de multiples reprises pour désigner non pas le bébé ou un stade chronologique de l'évolution psychique. Je lutte toujours contre l'idée qui vient de Lacan et qu'a critiqué Pascal Quignard en parlant lui aussi de l'infance, à savoir l'idée du tout langage, écrit J.B. Pontalis. La force du langage est justement de chercher ce qui n'est pas en lui, ce qui ne se limite pas à lui, ce que j'appelle l'aphasie secrète. Fin de citation. Pontalis rapproche l'être de l'infance de celui de l'écrivain. Il a inscrit à la fin d'un de ses plus beaux livres, « L'amour des commencements », une inscription « Infans scriptor ». Ce n'est plus l'ego, l'auteur du livre. Ego scriptor est le titre d'un recueil de poèmes de Paul Valéry. L'infance, celui qui ne parle pas, est devenu l'écrivain. Je rappelle et je termine une pensée poétique d'André Duboucher que j'ai découvert il y a quelques années en lisant son ouvrage « L'emportement du muet » qui a été comme un leitmotiv de plusieurs de mes derniers écrits. Pour peu que je sois dans la langue, moi, non la personne de l'autre, invariablement, je suis dans la langue le muet. Je vous invite à entendre cette citation comme une profonde vérité poétique.